Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, le grand débat.
À 8h39, le grand débat aujourd'hui avec Marc Fiorentino, Omel Le Chip, Benaoud Abdedaïm et Pauline Tadevin qui nous a rejoint parce que elle porte l'entreprise leader mondial, numéro un mondial du luxe.
Tout seul sur mes épaules.
Et sur vos épaules. Bravo, 80 milliards sur vos épaules. 80 milliards de chiffre d'affaires annuel, plus 20% en pleine période de crise.
Pour LVMH.
Comment c'est possible?
Il y a plein de sujets en tout ça, d'explications qui sont données par Bernard Arnault. C'est la désirabilité de ses produits, c'est la créativité, la désirabilité et aussi le pricing power. Ouais. Qu'exerce encore cette marque lors des résultats qui ont été donnés hier. Il y a eu l'exemple du cognac. Le cognac, c'est un marché qui est compliqué en ce moment. Ils ont augmenté les prix sur le cognac et ça fonctionne, des ventes en hausse de 11%. Quand même l'an passé
grâce au prix
grâce à cette hausse des prix, ouais.
Ce qui est fascinant, Marc, c'est en fait quand on regarde les chiffres chaque trimestre, hein, trimestre après trimestre, on est halluciné, c'est-à-dire qu'on se dit c'est juste pas possible. Et puis alors là on a eu les premières publications sur Louis Vuitton, donc sur les
20 milliards de chiffre d'affaires,
mais surtout doublé en 4 ans,
C'est-à-dire
le chiffre d'affaires. Donc on se dit mais comment, en fait c'est un business case de vision et d'exécution. Parce qu'on parle beaucoup de vision, mais on parle pas de l'exécution. L'exécution, c'est-à-dire être capable quand même, dans un monde où à un moment, la Chine se referme, elle se réouvre, on a des guerres, et puis le gars affiche tous les trimestres des chiffres totalement hallucinants. Il a quand même dit « je suis très confiant sur l'avenir », il augmente le dividende, enfin, c'est tout simplement hors sol, quoi.
Ouais. Et Emmanuel, d'ailleurs, il a donné une leçon d'économie, il a dit hier, Bernard Arnault, que les Français comprennent rien à l'économie, quoi.
Oui, alors évidemment, il est toujours un peu anguleux parfois dans ses propos, mais
anguleux.
Mais on comprend année après année, à chaque fois c'est le même cirque sur les profits considérables, etc. Et il en a un peu assez. Alors maintenant, c'est vrai que depuis 2-3 ans, chaque année, il prend soin de rappeler combien d'emplois il crée dans ce pays. Et il faut reconnaître que quand vous êtes salarié chez LVMH, bah vous êtes quand même un des salariés les plus heureux de France. Il rappelle combien il paye de cotisations sociales, combien il paye d'impôts.
La dernière fois, j'ai dit à l'antenne 1 milliard, j'ai reçu un SMS de LVMH, 2 milliards d'impôts par an.
Un des plus gros contributeurs à tout ça. Donc, on peut encore une fois vouloir lui couper la tête, etc. Si Bernard Arnault, vous le faites partir de France, il sera très heureux ailleurs. Ne vous inquiétez pas pour lui. En revanche, l'économie française pleurera les emplois, les cotisations sociales. Donc, attention à ne pas raconter n'importe quoi.
Pauline. Il a passé pas mal de temps, effectivement, hier soir, avec les analystes, à rappeler ça, cette leçon d'économie, entre guillemets, à donner des chiffres extrêmement précis, comme il le fait tous les ans, à dire, effectivement, pour ceux qui ne comprennent pas l'économie, mais bon, voilà, la contribution au fisc en France tous les ans, les investissements, 1 milliard d'euros en France chaque année. Voilà, 15 000 recrutements l'an passé en France, voilà.
C'est au-delà de ces questions-là, qui sont un peu récurrentes, c'est aussi une capacité quand même extraordinaire, parce qu'on prend un peu de recul, à saisir les évolutions de marché, notamment par rapport à la génération Z, c'est-à-dire ces nouvelles générations en Chine. Ils ont un ciblage, et il y avait un papier récemment dans Sixstone, qui est une publication à Shanghai, sur les phénomènes de société en Chine, sur la capacité de ces marques de luxe à saisir ce que veulent la génération ou susceptible de vouloir la génération Z. Notamment, il y a une actrice qui s'appelle Hu Yangnana, qui a 22 ans, qui est une immense star en Chine et qui porte ces marques de luxe. Et lorsque Hu Yangnana est avec vous, vous vendez nettement plus de sacs à main et de vêtements siglés.
Mais Laouda, Joëlle de Montgolfier, la directrice d'études du pôle luxe chez Bain & Company, tout à l'heure, nous disait qu'avant, on achetait un premier article de luxe à 19 ans. Maintenant, c'est 15 ans.
Exactement. Ça, c'est vraiment extrêmement frappant. Et puis, il y a un élément qu'il faut rajouter, c'est le soft power, quoi, pour la France.
Ouais.
C'est quand même un élément dont on parle relativement peu, mais c'est fabuleux. C'est-à-dire que les Américains, bon, ils ont Netflix, ils ont Hollywood. Bon, nous, on a Salto, ok. mais on a quand même.
C'est bientôt fini, fabuleux. Un Salto.
On a LVMH, on a Hermès, on a Kering, on a L'Oréal,
on a LVMH. Parce que LVMH, c'est quand même. Alors, Hermès, c'est fabuleux, évidemment, Kering aussi. Mais LVMH, c'est hors sol.
Moi, ce qui me fascine le plus, c'est la même, un peu ce que dit Benaouda, c'est-à-dire, mais c'est l'aspect psychologique et humain. Comment quelqu'un qui paraît finalement, compte tenu de ce qu'on
anguleux.
Sait, qui paraît aussi anguleux, qui paraît aussi presque, c'est pas péjoratif, mais conservateur dans ses goûts, etc. Comment a-t-il réussir
monde, ouais.
à chaque fois à être très audacieux,
délivrer.
Voilà.
C'est regardez ça. Ce qu'il est en train de faire de Tiffany en moins de deux ans, changer complètement.
Qui dépasse le milliard de chiffres cette année.
Alors que c'était ringard Tiffany il y a deux ans.
Bah, on critique beaucoup le management français et puis finalement il doit y avoir quelque chose qui marche.
Oui, c'est ça, c'est qu'on se dit finalement entre Bernard Arnault. Moi, quand, rappelez-vous quand il a été chercher John Galliano chez Dior, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce type, d'où qu'est-ce qu'il va jamais il va jamais vendre une robe. Et en fait, en réalité, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe entre Bernard Arnault qui appuie sur le bouton et
l'exécution,
le moment où effectivement les produits se vendent par million.
C'est la vision et l'exécution.
C'est ça qui est vraiment fascinant dans cette entreprise.
Il n'y avait pas qu'LVMH.
S'est fait plaisir ce matin.
Oui, parce qu'il y a quand même ST Microelectronics qui publie des résultats aussi impressionnants. Il y a Airbus qui annonce des recrutements 13 000 l'année dernière, 13 000 l'année prochaine. Là, on est quand même sur des champions. Alors, Airbus, vous allez me dire, Marc, c'est européen, c'est pas que français. ST Microelectronics, pas que français, c'est italien. Mais quand même, on a
quand
quoi
même. Il y a une French Touch, là. Regardez.
Non. Ouais, French Touch.
Non, mais on se fait plaisir. On a envie de
faire plaisir. Non. On peut se faire plaisir, c'est sûr. Mais on peut se faire plaisir en disant aussi que c'est un énorme succès européen. Mmh. C'est un succès franco-italien. Non, mais je parle d'Airbus.
Excusez-moi.
C'est vraiment un succès européen. C'est quand même sympa de se dire que c'est un succès. C'est bien que ce soit un succès français. LVMH, on est très fiers. Mais avoir un succès, avoir un modèle européen qui fonctionne.
Enfin, c'est pas vraiment un modèle européen.
C'est un modèle européen.
Non, parce que ces boîtes-là, excusez, non. Parce que ces boîtes, arrête. Ces boîtes-là, elles ne réussissent pas.
C'est récurrent.
Ces boîtes-là.
Laissez-le parler.
Non, mais ces boîtes-là, elles ne réussissent pas grâce à, elles réussissent malgré.
Elles réussissent
grâce à. Voilà. Évidemment qu'elles réussissent. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non, bien sûr que non. Et il y aurait plus de boîtes sans doute qui réussiraient si on était dans un environnement financier, technologique, intellectuel, fiscal, etc. Plus favorable.
L'épreuve de force à l'OMC qui était fondamentale face à Boeing, tout à fait fondamentale, a été remportée par 27,
par l'Europe,
de l'Union,
on aurait été deux pays,
c'était impossible.
Et penser à tous les géants qu'on n'a pas créés à cause des 27.
Non, mais en tout état de cause pour Airbus, si Airbus n'était pas soutenu par l'Union européenne et par ces bataillons d'experts qui sont hors pair de ce point de vue-là en termes de défense du droit commercial international, ils n'auraient pas pu tenir face à Boeing de ce strict point de vue dans l'attaque systématique qu'ont les Américains vis-à-vis des subventions qu'accordent à l'Airbus.
Finalement, quand on est de mauvaise foi comme les Américains, on fonctionne très bien. C'est-à-dire quand on fait semblant que les subventions ne sont pas des subventions et qu'en fait, il faut
jouer... Les avances remboursables.
Donc, en fait, il faut jouer les règles comme eux et avoir la même mauvaise foi que les Américains les Chinois.
En économie, ce qui est compliqué, c'est de voir ce qui n'existe pas et ce qui aurait pu exister. C'est comme de dire, on a préservé des emplois, ça ne se voit pas parce qu'ils étaient là. Tous les emplois qu'on n'a pas créés pour tout un tas de raisons, toutes ces entreprises qui n'ont pas pu émerger pour tout un tas de raisons... Désolé, ce matin, on se gargarise de combien d'entreprises ? 3-4 entreprises. On pourrait être présent.
Mais de secteurs entiers. Non, c'est pas vrai. Mais on peut pas dire ça.
Le luxe,
c'est 70 millions.
Le luxe, la défense, l'agroalimentaire.
Et voilà. Ça y est, t'as fait le tour.
C'est déjà pas mal.
ST Micro dans les puces aussi un peu.
Non mais je veux dire, on parle de secteurs qui sont des secteurs fondamentaux. Ouais. On peut pas dire c'est rien du tout. C'est pas de l'artisanat, c'est pas marginal. On est en train de parler de secteurs qui sont majeurs.
Ça n'est absolument pas marginal. Mais grosso modo, si tu regardes l'excédent commercial français, il est fait avec deux secteurs. Deux secteurs, l'agroalimentaire. Et effectivement,
on parle de l'Europe. Mais ce qui est intéressant aussi, le secteur des semi-conducteurs et des puces, on a longtemps dit que c'était un secteur où ces choses ne bougeaient pas, il fallait des milliards. Quand on voit la déconfiture d'Intel, ils souffrent parce que les PC, les serveurs, mais quand on voit la progression d'AMD, Benavidal nous en parle régulièrement, de TSMC, Intel est en train de se faire marginaliser. C'est le seul à publier des résultats en forte baisse cette année. Et on voit que STMicro, qui était quand même qui allait pas très bien quelques années, en choisissant les bons créneaux, les puces pour l'industrie, pour l'électrification automobile, est en train de faire un recovery, un comeback. C'est vrai que ce monde des puces au niveau mondial, les positions sont pas si figées que ça.
Pas du tout. Lorsque vous voyez l'ASML, l'avance qu'ils ont dans les équipements, les groupes néerlandais, dans les équipements dont a absolument besoin les équipementiers chinois, vous dites que c'est un succès extraordinaire, tout à fait extraordinaire et reconnu comme tel. Mais ce qu'il y a d'intéressant de la part du PDG d'ASML, c'est qu'il ne se laisse pas porter par une forme d'euphorie. Nous sommes devant. Il a donné une interview cette semaine pour dire que les lois de la physique s'appliquent également en Chine et que si vous continuez à les marginaliser, eux-mêmes rattraperont très très vite l'avance que nous avons en termes d'avance sur les semi-conducteurs, ces secteurs-là. Et de ce point de vue-là, ASML, là encore, ne peut s'appuyer que sur une seule force et unique, c'est l'Union européenne. Mmh. S'ils comptent uniquement sur le gouvernement français, néerlandais ou allemand pour les défendre face aux États-Unis dans une épreuve de force extraordinaire qui est en cours, ils vont être là aussi balayés et devoir se soumettre à Washington.
Là, on est dans un sujet hautement stratégique. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'aspect chacun chez soi. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect de se dire, maintenant, il y a Taïwan. Les semi-conducteurs, c'est Taïwan. Donc le problème, c'est comment on gère Taïwan, dont on sait que de façon inéluctable, ça va être repris par la Chine dans les 10 ou 15 ans qui viennent au plus tard.
Ah, pour vous, c'est inéluctable.
Enfin, je ne sais pas. Moi, je parle sous le contrôle de Ben Aouda, je ne parle jamais
En tout cas, ce qui est marquant, c'est que les gens au Pentagone disent nous détruirons l'appareil. C'est frappant de le dire, nous détruirons l'appareil de TSMC si les Chinois venaient à s'emparer du territoire taïwanais.
Ouais. Voilà, donc c'est a priori acquis. Donc la question, c'est une course de vitesse. Maintenant, on le voit bien aux États-Unis, hein, mais même de TSMC aux États-Unis.
Qui va investir aux États-Unis, hein, qui
donc
va transférer
une course de vitesse, une course de vitesse aussi en Europe. Et dans cette course-là, pour l'instant, on n'est pas trop mal positionné. Là aussi, c'est plutôt une réussite européenne, comme le soulignait Emmanuel tout à l'heure.
Ah ouais, Emmanuel, vous voyez, il y a plus d'optimistes que vous.
Il
y a plus d'optimistes que vous.
Oui. Mais oui, parce que c'est toujours facile d'aller chercher dans la vitrine les trois beaux objets qui traînent.
Bah ça voilà. Va, oui.
Mais non, mais je veux dire, mais encore une fois, c'est on n'est pas dans un environnement. Et regarde, enfin, moi je veux bien, il y a deux trois entreprises qui s'en sortent, mais regardez
non, mais
sur la
deux,
table
trois,
en matière. Non, mais je veux dire, attendez,
vous préférez global, peut-être parler macro. Si
c'est pas
voulez.
Ça, c'est que regardez ce qui est mis sur la table, encore une fois, sur la R&D, regardez l'argent qu'on gaspille sur les batteries électriques, alors qu'on va se faire. Quand vous voyez les chiffres de l'automobile électrique chinoise, on se dit c'est de l'argent perdu. Donc,
je vous connaissais pas comme ça, défaitiste, vous dites.
Non,
alors,
c'est pas défaitiste.
Laissons rentrer les Chinois,
non, je pense
parce qu'on
a
perdu déjà.
Je pense à la fois, et c'est intéressant, que le too big to fail, ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous pouvez être très gros et vous pouvez disparaître très vite si vous faites des erreurs.
Des mauvais choix.
Des mauvais choix. Mais c'est vrai en partie pour des raisons non seulement de recherche et d'innovation, mais de positionnement marketing aussi. Et là, effectivement, on voit bien que sur la partie fondamentale, si vous ne l'avez pas, eh ben, c'est quand même très compliqué. Et quand vous avez une seule grosse entreprise de micro, de semi-conducteurs dans le monde qui investit plus que tous les États européens pour faire de la recherche, il y a un moment où, enfin, je veux dire, je veux bien qu'on soit extrêmement brillant, extrêmement intelligent, etc. Mais il y a un moment où ça pose problème.
Il y a quand même l'argument massif, Emmanuel, c'est l'euro. Sans l'euro, aujourd'hui, on aurait des taux d'intérêt à 10 ou 12% en période d'inflation et on aurait
tout.
Non, ben si. Parce qu'on aurait des industries qui seraient nationales, qui seraient totalement au tapis. C'est-à-dire que quand tu remets en cause la construction européenne et l'impact sur le business, on peut pas oublier l'euro.
Cite-moi
l'euro.
L'euro
permet.
Citez-moi Marc Fiorentino. Alors, à part Airbus, qui, je le rappelle, n'est pas un produit de l'Union européenne, mais est un programme.
Allez, c'est reparti.
Mais bien sûr que non. Mais il faut connaître l'histoire, Marc. Je suis désolé. Là, c'est pas un programme de l'Union européenne. C'est de l'inter-européen. Donc c'est pas.
On va pas refaire l'histoire d'Airbus. Un mot de la croissance.
Citez-moi encore une fois tous les grands groupes. Je veux dire, qui sont nés en Europe. Quels sont les grands groupes européens qui ont émergé depuis 10 ans grâce à notre merveilleux système législatif encourageant? Il n'y en a pas. Et on en a tué.
Il a perdu.
Non, voilà. Pas perdu du tout. Je ne veux pas relancer. Bon, c'est un autre sujet.
Exactement. On parlait de la croissance américaine publiée hier qui s'est établie à 2,1% pour l'ensemble de l'année 2022. Est-ce que c'est en trompe-l'œil? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ça veut dire que c'est un soft landing? Ah bah ça vous coûte
le sourire. Non, c'est une bonne nouvelle. Ouais. C'est une économie qui est ultra résiliente. En fait, tout tourne autour de l'emploi. La réalité, c'est que l'économie est tirée par la consommation qui est elle-même tirée par l'emploi. L'emploi continue à être porté par le déséquilibre qu'il y a avec les offres non pourvues post-Covid. Donc, tant qu'on aura ça, même en France, hein, on a vu les chiffres cette semaine,
bah ouais.
On aura une économie qui sera résiliente. Et c'est plus qu'une bonne nouvelle, c'est super, quoi. C'est-à-dire qu'on peut probablement éviter la récession.
Ben Aouda, vous avez identifié un débat au sein de la Fed.
Ah. Oui, alors c'est un working paper, un document de travail que sort Daniel Ringo, qui est l'économiste principal du Bureau de recherche sur le financement de l'immobilier de la Réserve fédérale. Et lui dit que la Réserve fédérale est en train de non pas de dégonfler l'effet richesse pour les propriétaires immobiliers aux États-Unis, mais en augmentant les taux, il le démontre au travers de cette étude, est en train de créer une nouvelle génération appauvrie. En augmentant les taux d'intérêt, vous accroissez en fait les inégalités parce que vous empêchez les primo-accédants aux États-Unis maintenant d'acheter un appartement. Et donc, de ce point de vue-là, c'est quelqu'un de la Fed qui met en cause la Fed dans l'augmentation des taux d'intérêt. C'est peut-être aussi une indication sur ce qui va arriver dans les semaines et les mois qui viennent.
Ça veut dire peut-être des hausses de taux à peu près.
Peut-être.
Le contre-argument massif à cet argument-là, c'est qu'on n'a jamais eu un enrichissement aussi important des classes les plus riches depuis la baisse des taux d'intérêt depuis 10 ans.
Mais lui place ça sur le côté générationnel.
Oui, je comprends.
Mais c'est le bon résumé.
D'un point de vue patrimonial, ça a été un enrichissement absolument spectaculaire. Tous les chiffres sont là. C'est-à-dire que la fortune des milliardaires, la progression des... Donc on a des chiffres qui sont... Et la baisse des taux a été probablement l'élément qui a permis aux gens de s'enrichir le plus. En tout cas, les gens les plus riches.
Emmanuel.
C'est ça. En fait, là, c'est simple à résumer. La baisse des taux a enrichi les riches et la hausse des taux appauvrit les pauvres. Voilà. C'est un peu ça.
Il n'y a rien qui marche, quoi.
Non, c'est
pour
pas
réduire
ça.
Les inégalités,
à la fin, c'est toujours le riche qui gagne. C'est un peu ça l'idée. En fait, et d'ailleurs, les débats sur les. Qu'on n'a pas tellement eu en Europe, d'ailleurs, sur l'effet de la baisse des taux, mais les débats sur la baisse des taux d'intérêt en provoquant une hausse massive des marchés financiers qui enrichit. Ça a été un débat politique aux États-Unis. Je me tourne vers Ben Aouda, qui a été important.
Bon.
Chez nous, ça n'a pas eu lieu. Et là, effectivement, c'est plutôt, pour le coup, l'aspect immobilier. Donc, en gros, sur les marchés, vous gagnez, sur l'immobilier, vous perdez d'un côté.